Vous écoutez Tech Café et en particulier un épisode hors série très exceptionnel du podcast. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné, bien entendu, de mon compère de podcast, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Oui, mais je sais pas moi la star, vraiment pas cette fois.
Bah oui, parce que dans cet épisode, on a la chance de pouvoir échanger avec une des figures de la Silicon Valley, c'est Luc Julien. Salut Luc.
Bonjour les Guillaume.
Bonjour, merci de nous consacrer un peu de ton temps.
Ah oui.
On a plein de thèmes qu'on aimerait aborder avec toi. Je suis sûr qu'on pourra pas tous les traiter dans cet épisode. On va faire au mieux. Tu as pris l'initiative, en tout cas, de soutenir Tech Café. Alors, on a de nombreux soutiens sur Patreon. J'en profite, hein, patreon.com/techcafé. Et ils sont tous merveilleux. Mais forcément, t'as une place particulière, hein. On va pas se mentir. Et puis, on va te présenter quand même pour celles et ceux qui te connaîtraient pas. Mais d'abord, donc, merci de ton soutien. Pourquoi d'ailleurs tu as décidé de soutenir un petit podcast indépendant comme ça, Tech Café?
Ouais, parce que de ma Silicon Valley, là-bas éloigné, c'est mon podcast préféré tech qui parle français. Et donc je suis toutes les semaines accro complètement et il me tarde à chaque fois d'écouter les deux vidéos. Ça fait très plaisir.
Ah bah écoute Luc, je pense que tu intimides encore un peu plus Guillaume Poggiaspala.
Ah ouais, non, non mais là maintenant j'ai la grosse pression là.
Écoute, on va tout dire pour ceux qui te connaîtraient pas encore. Tu es franco-américain, originaire de Toulouse. Un des éléments de ton CV qui t'est très souvent associé, c'est celui de te présenter comme un des concepteurs de Siri. Alors on va parler dans cet épisode un petit peu des assistants vocaux, mais déjà une première question. Est-ce que ça t'agace, Luc, que tu sois toujours présenté comme un des papas de Siri, ou est-ce que ça continue dans une certaine mesure à être une forme de fierté?
C'est une fierté dans le sens où on a eu 300 millions d'utilisateurs, 500 millions aujourd'hui, donc c'est toujours sympa de voir ça. Ça m'agace un tout petit peu parce que c'était, en fait, la conception date de 1998, même si c'est arrivé dans le public en 2011. Je me présente plus comme le grand-père de Siri qu'autre chose maintenant. Hein. ça me dérange pas parce que c'est vrai que c'est quand même dans l'histoire quelque chose d'intéressant, dans l'histoire de la tech. Maintenant, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites depuis. Et Siri, aujourd'hui, n'est pas non plus le meilleur reconnaisseur. On aura certainement l'occasion d'en parler plus tard.
Ouais, d'ailleurs, les assistants vocaux, hein, tu tires à balles réelles sur les assistants intelligents, comme on les présente. On en reparlera. Et puis, effectivement, Siri est peut-être pas l'emblème de l'assistant le plus intelligent. Bon, c'est bien. Je voulais te poser cette question parce que je voulais savoir quoi mettre pour le titre de l'épisode. Tu vois, il y en a beaucoup qui mettent « On reçoit le papa de Siri ». Donc, j'ai peut-être ajusté un petit peu le titre.
Oui, tu mets le grand papa, c'est bien.
Le grand papa, c'est noté. L'autre thématique, quand même, à laquelle on t'associe naturellement, c'est celle de l'intelligence artificielle. Tu as été en charge de l'innovation chez Samsung pendant assez longtemps, et puis tu rejoins d'ailleurs, c'est assez frais, une autre entreprise en cette année 2021 en tant que directeur scientifique. On va échanger plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle dans un petit dossier tout à l'heure, mais avant, est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison tu avais rejoint Samsung? C'était quoi ton ambition, ce que tu y faisais? Et puis, pourquoi, ce que tu vas faire maintenant et pourquoi tu changes?
Ouais, alors, Samsung, en fait, dans ma carrière, j'ai deux amours technologiques. D'une part, l'IA et puis tout ce qui est, en fait, interface en machine et puis communication en machine avec la voix en particulier. Et l'autre amour, c'est les objets connectés qu'on appelle maintenant IoT. D'accord. Donc dans ma carrière, j'ai toujours fait du ping-pong entre les deux et essayé de les marier aussi souvent, aussi souvent que je pouvais. Et après avoir fait pas mal de voix donc avec Siri, à la fin de cette aventure-là, j'ai décidé d'aller dans la compagnie qui faisait le plus d'objets au monde. En l'occurrence, c'est Samsung. Hein, ils vendent 1 milliard d'objets par an quand même. Et mon étonnement en 2012, quand j'ai décidé d'aller chez Samsung, c'était de voir que leurs objets n'étaient pas connectés. Et c'était pour moi une aberration parce que c'était tout le monde avait dans la bouche IoT à ce moment-là et Samsung n'était pas connecté, donc je leur ai proposé de créer leur cloud et pour connecter leurs objets au cloud, et c'est ce que j'ai été faire chez Samsung. Donc c'était un projet de 2-3 ans au départ, et puis après ça s'est étendu à de l'innovation avec je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs l'innovation, mais plein de trucs différents que Samsung aurait pu faire s'ils m'avaient écouté il y a quelques trucs qu'ils ont fait quand même. Donc ça, c'est ce que j'ai fait chez Samsung pendant 8 ans. Et puis après, récemment, je m'amuse, hein, franchement, moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis dans la tech. J'ai fait 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up. Et après ça, donc 10 ans de grosses boîtes technologiques aux US, parce que c'était HP, Apple et puis Samsung. Et donc là, j'étais arrivé au bout de mes 10 ans en décembre 2020. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça va être les prochains 10 ans? Je veux rendre quelque chose à la France, parce que je suis quand même franco-français, franchouillard de base. J'admire la France, j'admire notre système éducatif, on peut y revenir certainement. Et je me suis exilé il y a 30 ans, il y a presque 30 ans aux États-Unis. Donc je me suis dit, il est temps de rendre quelque chose à la France. Donc faisons 10 ans de grand goût français. Et le premier que j'ai choisi, c'est Renault. Alors ça peut paraître curieux comme choix, mais pour moi Renault c'est une marque emblématique de voiture. La voiture, ça devient de plus en plus un objet technologique et ça doit devenir un objet technologique. On a vu ça avec les Tesla et autres Lucides dans la vallée. Et ben je pense qu'il est temps de dépoussiérer un peu une vieille dame de 120 ans pour lui faire avaler un peu plus de technologie, encore plus de technologie et rendre les voitures encore plus excitantes à travers cette technologie.
Bah, c'est vrai qu'on le voit beaucoup au travers de Tesla, qui est assez emblématique sur ce domaine-là, mais j'ai l'impression que c'est quand même toute l'industrie automobile qui se dimensionne plus que jamais autour de la connexion de leurs des produits qu'ils commercialisent. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. J'avais un chiffre en tête il y a de ça quelques jours de la part du prix d'une voiture de l'informatique dans le prix d'une voiture. Je crois qu'on avoisine les 40%, ou en tout cas c'est ce vers quoi on tend à court terme. Donc j'imagine effectivement que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Et paradoxalement, c'est de plus en plus connecté, mais ça reste assez idiot finalement. Et puis Guillaume Poggiaspala souligne au travers de ses chroniques encore à quel point on est très très loin d'avoir une conduite entièrement autonome, par exemple. Alors même si c'est pas forcément l'objectif numéro un qu'on peut avoir dans le travail que tu peux mener avec des véhicules, mais Guillaume, c'est souvent qui nous dit que la conduite entièrement autonome, c'est quand même quelque chose qu'on n'est pas prêt de vraiment toucher du doigt au quotidien.
C'est clair. Oui. Pardon, Guillaume, vas-y.
On
est complètement aligné là-dessus, parce que bon, je t'écoute évidemment tout le temps, et on est 250% aligné. Le niveau, ce qu'on appelle le niveau 5, hein, donc il y a 5 niveaux d'autonomie, enfin 6 niveaux de 0 à 5, et le niveau 5 n'existera jamais. Moi, je suis très très clair, ça n'existera jamais, c'est complètement impossible, parce que il y a juste des événements qui se passent qui font que il y aura toujours un cas particulier qui sera pas gérable par les machines, parce qu'elle l'a pas appris ou parce qu'elle l'a pas vu, parce que c'est des règles, c'est des mathématiques tout ça, hein, donc en gros, c'est des statistiques, des mathématiques, donc c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour, parce qu'il y a des chiens, parce qu'il y a des vélos, il y a des choses autres que des voitures autonomes. S'il y avait que des voitures autonomes, ça s'appelle le train. Si tu veux, donc et le train, bon, ça c'est autre chose. On est sur des rails et on fait des choses particulières. Mais par contre, la voiture autonome niveau 4 sera absolument extraordinaire. Il va sauver des vies. Mais quand Musk nous déclare dans ses grands discours que on a une voiture autonome aujourd'hui, bon, c'est des grands mensonges. De toute façon, Musk c'est un grand Pinocchio, comme vous le soulignez souvent. Aujourd'hui, une Tesla, on est au niveau 2,5 peut-être, d'accord? Donc on est encore très loin du 4, et puis évidemment, comme on ne sera jamais au 5, on est très loin du 5.
Et oui, c'est que finalement, il faut voir qu'il y a des niveaux de spécialisation, quoi. C'est-à-dire la voiture devient de plus en plus générale, comprend de plus en plus de choses avec les niveaux, quoi. Et le niveau 5, c'est la même chose qu'un être humain. Mais donc ça sous-entend que la voiture a suffisamment de bon sens pour réagir à une situation qu'elle n'a jamais vue qu'aucun de ses algorithmes n'a vu dans ses données d'entraînement. Donc ça veut dire qu'en fait, elle généralise au-delà finalement de ses données d'entraînement, qu'elle a un bon sens comme un être humain. Donc ça va vraiment très très loin. Et effectivement, c'est extrêmement difficile et peut-être même effectivement impossible. Ça, bon, je sais pas, mais je suis pas spécialiste à ce point. Mais effectivement, tout ce qu'on peut espérer, ce sont de très très bonnes voitures spécialisées qui, dans des cas bien connus, bien balisés, peuvent faire des choses tout à fait intéressantes déjà.
Bah oui, alors pour être clair, bon, je veux pas passer l'émission là-dessus, il faut comprendre que il y a des trucs très spécialisés où les voitures sont bien meilleures que nous. Nous, on fait autre chose des fois, voilà, on textouille un peu, on boit un petit coup, enfin on fait des trucs qui sont pas très très cachés, on va dire.
On s'endort.
Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que la voiture va mieux freiner que nous, va faire plein de choses très spécialisées mieux que nous. C'est le type même, enfin c'est le rôle même de l'outil. D'accord, un outil fait quelque chose de mieux que nous. Et en l'occurrence, une voiture va mieux freiner, etc., etc. Donc elle va faire des choses mieux, mais comme vient de dire Guillaume, il y a plein de choses générales qu'elle peut pas savoir parce que c'est du bon sens, c'est effectivement des fois de l'empathie même, des choses que nous, on va inventer au moment où ça arrive. Parce qu'on va avoir des réflexes qui viennent de beaucoup plus de choses, de notre culture, de plein de choses. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est l'exemple le plus rigolo. En mai 2018, le CEO de Waymo a dit lui aussi que la voiture autonome niveau 5 existera jamais. Et il a mis online 10 millions de miles en vidéo qui ont été prises par les petites voitures Waymo, vous savez, celles qui sont un peu partout dans le monde, mais en particulier dans la Silicon Valley. Et donc, c'est de l'enregistrement sur YouTube. Il a mis les 10 millions de miles accessibles. Donc, évidemment, des mecs comme moi, on est allé voir. J'ai pas pu regarder 10 millions de miles, hein, j'ai pas eu le temps, mais il m'a pas fallu longtemps, en fait, pour tomber sur ce que j'appelle une pépite. Et la pépite, en l'occurrence, c'est quoi ici? On voit la voiture qui roule dans Mountain View. Et puis, au milieu de rien, c'est très chiant, Mountain View, hein, il se passe rien. Et donc, au milieu de rien, la bagnole s'arrête. Punk. Et puis, au bout de 2-3 secondes, elle reprend. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. Et puis ça, 3-4 fois. Puis là, il y a toujours un opérateur dans ces bagnoles. Et bon, l'opérateur reprend la main et puis il part avec la voiture. Très bien, mais là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun sens. Et là, si tu regardes la vidéo, tu vois que sur le côté, il y a 2 mecs qui sont en train de marcher. Et un des 2 mecs qui est en train de marcher, sur son épaule, il a un panneau stop. Alors, toi, tu vois un connard sur le bord de la route avec un panneau stop, tu t'arrêtes pas, enfin j'espère, sinon il faut qu'on parle, tu vois. Mais la voiture, elle voit un panneau stop sur le bord de la route, elle s'arrête. Alors évidemment, ce cas-là, tu vois, l'ingénieur de Google qui aurait trouvé qu'il fallait mettre ce cas-là dans les dans l'apprentissage ou n'importe quoi, il faut l'augmenter, le gars, tu vois, parce que c'est improbable. Voilà. Donc c'est dedans le problème qui sera jamais résolu.
Bah, c'est un petit peu comme on parlait aussi des adversarial examples avec les IA qui, par exemple, si tu mets une
ceci
pomme
une
et que
pomme.
Tu écris, je sais plus ce que c'est exactement, mais ceci est un chat,
ouais.
y a des IA qui vont dire que la pomme est un chat parce qu'il y a marqué que c'est un chat dessus.
Exactement.
Et il y a vraiment un problème, effectivement, de ces trucs-là où l'IA est trop spécialisée, en fait. Elle voit pas, tu vois, elle arrive pas à concevoir que ce soit une pomme avec un truc marqué dessus. Il y a l'un ou l'autre, donc il y a un conflit, et puis bon, finalement, c'est un petit peu cette idée. Et pour les voitures autonomes, effectivement, il y a plein d'exemples, que ce soit des exemples intentionnels pour des gens qui voudraient piéger les IA des voitures, parce que ça pourrait arriver un jour, hein, tout simplement. Ou non intentionnel, comme là, où c'est juste que la voiture, elle a pas le bon sens de voir que c'est un mec avec un truc sur le dos, bien. C'est un de tes
chevaux de bataille, hein, Luc, l'intelligence artificielle. Tu as écrit un livre qui s'appelle, et c'est dingue, c'est assez provocant comme titre volontairement, mais l'intelligence artificielle n'existe pas, ce qui est un comble quand même. On va en reparler de toute façon plus spécifiquement de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais effectivement c'est assez révélateur probablement de la différence qu'il peut y avoir de perception pour le grand public qui se dit waouh, demain les robots vont conduire à notre place toute la journée, on pourra même mettre à disposition notre véhicule quand on ne s'en sert pas pour qu'il soit loué automatiquement à d'autres personnes, et la facilité avec laquelle on peut tromper cette organisation. Bon, on va en reparler. J'avance un petit peu quand même dans ta présentation pour dire qu'en 94 tu contribues à lancer Nuance, l'entreprise de reconnaissance vocale qui a fait d'ailleurs les gros titres ces dernières semaines, parce que Nuance a été racheté par Microsoft pour près de 20 milliards de dollars. Alors, en tant qu'observateur, on est tenté de dire que Microsoft les a rachetés parce que c'est une entreprise qui est très bien implantée aujourd'hui dans le domaine de la santé, que c'est probablement une porte d'entrée assez durable d'un point de vue commercial dans ce marché pour Microsoft. Est-ce que tu peux nous toucher un petit peu deux mots de Nuance et éventuellement de cette acquisition?
Oui, bien sûr. Bon, alors Nuance, c'est très, très vieux, hein, comme boîte. Effectivement, 94, ça commence à faire un peu. Puis c'est une boîte aussi très compliquée parce que c'est une boîte qui a été formée par des acquisitions, hein. Donc entre 94 et 2015, disons, il y a eu des dizaines et des dizaines d'acquisitions et ça a été une boîte très compliquée parce que le Nuance dont on parle aujourd'hui, en fait, originalement, il s'appelait Scansoft. Je vous passe l'histoire, c'est pas très intéressant.
C'est un agglomérat de plein de petites choses.
Voilà, en fait, ils ont tué la reconnaissance de la parole, en quelque sorte. À part les deux gros qui se sont sortis, les deux ou trois gros qui s'en sont sortis, chaque fois qu'il y avait une boîte, une petite boîte qui essayait de faire de la reconnaissance de la parole, Nuance faisait une acquisition et donc l'incorporait dans son agglomérat. Bon, bref. Donc, effectivement, ils se sont spécialisés, et dès le départ, en fait, dès les années 2000, début des années 2000, et même un tout petit peu avant, ils se sont spécialisés dans certains domaines, comme la santé, et donc il y a le logiciel Dragon Dictate, qui était spécifiquement pour les médecins, qui permettait aux médecins de dicter, en fait, leur ordonnance, en gros, et leurs constatations. D'accord? Donc ça a commencé très très tôt, et effectivement, une énorme partie de leur chiffre d'affaires, à peu près 60% du nuance de 2021, c'était sur le médical. Donc c'est une grosse partie. Pourquoi je dis nuance de 2021? Parce que le nuance de 2019 s'est scindé en deux, avec les deux gros morceaux, en gros, donc le morceau qui était plus médical, et puis les call centers, on peut dire, et l'autre morceau qui était automobile. D'accord, donc Serence est parti, donc a fait une spin-off en 2019. Bref, donc mais le nuance d'aujourd'hui, donc celui de 2021, c'est effectivement essentiellement call centers et médecine. Et c'est vrai que point de vue technologie pure, même si on était très fiers de ce qu'on a fait dans les années 90, aujourd'hui le nuance en reconnaissance pure n'a pas vraiment de sens. Enfin, je veux dire, il n'est pas aussi bon que certains autres qui sont bien meilleurs d'après moi. Donc c'est pas une acquisition technologique pour moi. Donc c'est définitivement pas quelque chose pour améliorer, par exemple, ce que Microsoft a annoncé qu'ils avaient abandonné il y a quelque temps, qui était leur reconnaisseur Cortana. Donc je pense pas que ce soit ça. Donc je pense que c'est effectivement pour mettre les deux pieds dans un domaine particulier, en l'occurrence le domaine médical, et ils se sont achetés, donc, mais je trouve que pour 20 milliards c'est quand même beaucoup, mais je pense qu'ils se sont achetés une position dominante dans ce domaine-là.
20 milliards, c'est beaucoup. C'est vrai que nous, on enchaîne un peu les milliards, mais je me rends compte qu'ils n'ont plus aucun sens pour moi. À partir du moment où on a eu des rachats d'applications comme WhatsApp ou Instagram, où on tapait dans le milliard. Depuis, en fait, je reconnais que ça n'a plus du tout de sens pour moi, puisque je n'arrive plus à mesurer ce que représentent ces valeurs. En plus, on est en pleine période là où les entreprises annoncent leurs résultats trimestriels de ce premier trimestre de 2021. Moi, j'avoue que je suis un peu paumé. Alors, on les compare d'une année sur l'autre. Toi, tu dis en tout cas que 20 milliards, c'est beaucoup, c'est ça?
Ouais, c'est beaucoup quand tu vois le chiffre d'affaires dont je viens de parler là. C'est 60% de 1,5 milliard, c'est à peu près 1,5 milliard le chiffre d'affaires. Hein. Donc 60% de ça, allez, on va dire c'est 1 milliard. S'il faut rentabiliser ça, ils vont mettre 20 ans pour rentabiliser, tu vois, une acquisition comme ça. Donc c'est quand même beaucoup. Mais ce qu'il faut comprendre, et tu viens de parler des résultats des entreprises de 2020 et 2021, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises de tech, hein, que ce soit les Microsoft ou les Apple, on a vu ça encore hier, ont fait des chiffres absolument déments. D'accord, hein, ça a été la pandémie pour eux a été très bénéfique. D'accord, donc ils ont beaucoup de cash. Et ce cash, il faut le dépenser. Alors de là à le gâcher, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je pense que c'est un peu du gâchis là quand même.
Il y a probablement une évaluation aussi de ce que ça leur offre en termes de portes ouvertes et de portes d'entrée dans le monde de la médecine. Mais bon, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Il y aurait encore probablement beaucoup à dire. Mais on va aussi s'attarder sur un autre point de repère de ton CV quelque part. C'est évidemment ce que tu as fait pour Siri. En 97, tu as déposé le brevet donc de l'ancêtre de Siri et tu as présenté The Assistant en 99. En 2010, l'entreprise Siri est racheté par Apple, et tu rejoins Apple en 2011 pour accompagner le développement. Alors, t'es assez intéressable sur le sujet, à chaque fois on t'entend en parler, de manière assez critique d'ailleurs, hein, et là encore, on n'aura pas assez de temps dans cet épisode pour en parler, mais quand même, est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce que tu peux nous confier quelques mots sur ton implication dans Siri, et puis ton vécu chez Apple? C'est rare qu'on puisse échanger avec des personnes comme ça, qui ont cette expérience dans cette entreprise.
Donc Siri, comme je dis, c'était une aventure de recherche au départ, hein, puisque c'était au Stanford Research qu'on a fait ça, donc dans les années 90, avec une idée simple, qui était l'idée qu'a repris Google en gros après en 98, qui était de dire il y a Internet qui arrive, c'est compliqué, il va falloir l'interroger. Et donc nous on s'était dit on va l'interroger avec un assistant vocal parce que c'est plus facile de faire passer l'information comme ça. Google a pris l'assistant globalement typed, d'accord, quand on tapait les trucs dans une petite fenêtre. Donc c'était la même idée, c'était de pouvoir dire l'assistant aide-moi à trouver quelque chose sur Internet. Hein, en gros c'était la genèse. Technologiquement c'était rigolo, donc ça a progressé jusqu'à ce que un visionnaire comprenne que ça pouvait avoir du sens dans un téléphone. Et ça c'était Steve Jobs évidemment. L'iPhone arrive en 2007. Donc lui il comprend que bah, l'iPhone en gros c'est quand même un micro, hein, c'est quand même fait pour du son, et donc il a vite compris qu'avoir un assistant dans le téléphone c'était quelque chose de rigolo. La compagnie Siri à ce moment-là, qui avait été spin-off de SRI en 2007 aussi, était surtout sur Android, mais bon, Steve Jobs arrive, ils font la version pour iPhone, et puis donc il achète la compagnie. Et on se retrouve en mode secret en quelque sorte à l'intérieur de d'Apple, parce que tout est secret de toute façon à l'intérieur d'Apple, surtout au début. Et donc on se retrouve là-dedans. Moi, je rejoins parce que je faisais d'autres startups à ce moment-là, mais je rejoins mon ami Adam Shire avec qui on avait fait les brevets en 97. Et donc pour diriger, ils m'ont demandé, aussi bien Jobs, que je connaissais depuis un moment, et Adam m'ont demandé de venir diriger Siri là. Donc on grossit l'équipe en mode stealth, hein, en cachet, une vingtaine de personnes à une petite centaine de personnes. Et puis, donc on fait tout, de A à Z. C'était super intéressant. Les 6 premiers mois étaient super excitants parce qu'il a fallu construire la data center. Là, on connaît pas Amazon encore, même à l'époque, hein. Donc, y a pas AWS, c'est pas des choses comme ça. Donc, on crée nos propres data centers de A à Z. On achète les terrains, on les construit. Enfin bon, c'était dément. C'est, wow. Et tout ça en 6 mois. Hein, je veux dire, des trucs complètement, un budget de dingue. Et puis, donc après, on sort effectivement de la première version, en octobre, 2011. Et il se trouve que c'est juste à ce moment-là aussi que Steve Jobs a la mauvaise idée de mourir. Ça, je dis qu'il a la mauvaise idée parce que malheureusement, c'est lui qui portait le sujet, c'est lui qui avait vraiment la vision, qui avait compris. C'est ses camarades qui voulaient être vizir à la place du vizir avaient rien compris eux. Mais il avait eu aussi la bonne idée avant de nommer Tim Cook, qui est un bon gestionnaire, on voit ça aujourd'hui, mais qui est pas du tout dans l'innovation, d'accord. Il comprend pas forcément comment on innove. Et donc, bon, moi je suis pas un fanboy, hein, d'Apple. Je pense qu'il y en a un autre dans la room ici. Donc je suis pas un fanboy. Pourquoi? Parce que je suis plutôt pour l'ouverture, je suis plutôt pour l'open source, je suis plutôt pour des trucs comme ça. Donc je suis plus Linux que Windows même.
T'es plus Team Guillaume Poggiaspala.
Voilà, exactement. Ouais. Donc je suis plutôt dans son équipe. Et donc du coup, c'était pas une boîte qui me plaisait. Comme icône, on va dire, hein. Et surtout dans la Silicon Valley aussi, c'est une boîte vachement à part parce que justement elle est très isolée, d'accord. Ouais. Le fait que elle veut pas collaborer avec les choses, alors ça a changé un peu avec Tim Cook, hein. Il faut reconnaître que les 10 dernières années ont changé un peu, mais à l'époque c'était vraiment un truc hyper fermé. Et donc du coup, moi j'étais vraiment pour Siri, j'étais juste parce que Siri c'était mon bébé, c'était le bébé qu'on avait fait avec Adam, donc 14 ans avant. Donc j'ai été pour ça parce que c'était évident que ça allait se développer, c'était évident qu'on allait lancer un nouveau domaine, hein, d'accord. Donc c'est pour ça que c'était excitant. Et puis avoir une plateforme qui pouvait éventuellement toucher des centaines de millions de personnes, c'est quand même sympa. Bon, pour l'ego, ça fait plaisir, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà, j'ai été pour ça, mais c'est vrai que l'expérience après, une fois que Jobs est parti, c'était triste dans le sens où il y avait plus cette excitation du visionnaire tech qui est complètement affecte, hein. Je veux dire, socialement parlant, ce gars-là, il était c'était
humainement tu pourrais le témoigner sur des détails, sur des aspects, le côté affect du personnage.
Je peux vous raconter ma première rencontre avec lui en 2003, hein. C'était assez simple. Je faisais une petite start-up à ce moment-là qui, je pense, aurait pu amener quelque chose à Apple, et donc on lui fait une présentation. On avait une heure sur le calendrier. On arrive, on est trois arrivés. Lui, il a ses deux sbires aussi avec lui, qui sont des SVP très connus, qui sont dans la salle avec lui. Et donc il est là, jean déchiré. Enfin bon, il est étalé sur le canapé en face de nous. Enfin bref, le truc lunaire. On arrive, on lui fait la démo. Au bout de 7 minutes, 8 minutes de démo, il se lève, il sort, il dit c'est de la merde. Bye. Voilà. Donc ma première rencontre avec Steve Jobs, on va dire, était moyenne.
Pour que tu sois aussi élogieux sur certains aspects du personnage après avoir vécu ça, c'est que tu n'es soit pas rancunier, soit il a d'autres éléments qui compensent énormément ce genre de choses.
Bah oui, non, il avait d'autres éléments. C'était effectivement un roi du marketing. Il avait des visions intéressantes, hein, d'accord, définitivement. Mais c'est vrai qu'il traitait les gens d'une manière pas tellement agréable. Mais bon, après j'ai eu d'autres occasions de le rencontrer. Et puis après l'aventure de Siri était de toute façon intéressante pour nous. Mais voilà, donc Apple en général. Donc une fois que Jobs est parti, malheureusement, après il n'y a plus cette vision. Et d'ailleurs, c'est ce que je constate aujourd'hui. Les dernières années, il y a quand même très 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 peu d'innovations. Les innovations qui sont arrivées après sa mort, comme la Watch et comme les trucs comme ça, c'est des trucs qu'il avait déjà dans les cartons dès 2008-2009. Donc c'était pas étonnant pour moi quand c'est sorti, quand la Watch ou la Apple TV ou les trucs comme ça sont sortis. Je veux dire, c'était déjà dans les cartons.
Bah c'est quand on, là encore, quand on est observateur, c'est toujours un peu compliqué de savoir si jamais effectivement il était aussi central dans le fonctionnement d'Apple ou si ça se traduisait aussi par plein de choses. Il y a eu tous les débats à ce sujet-là. Donc toi, tu confirmes qu'en fait, quand on a une place comme ça d'un CEO aussi engagé dans l'innovation qui disparaît, effectivement, ça doit être compliqué pour le développement. Alors justement, tiens, un petit mot, parce que donc on parlait de Siri et d'Apple, mais on va prendre Siri comme probablement un mauvais exemple des assistants vocaux aujourd'hui et parler des assistants vocaux au sens large. C'est un point que tu soulignes assez souvent, mais en fait on le constate quand on les utilise vraiment, c'est qu'en gros ces assistants vocaux, ils ne remplissent pas la promesse qu'ils tenaient ou qu'ils voulaient tenir il y a de ça plusieurs années. Aujourd'hui, on ne mesure plus, et c'est devenu d'ailleurs un élément du quotidien pour les personnes qui les utilisent, d'accepter le fait que Google, Alexa ou évidemment Siri n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur dit. Et c'est le cas parce qu'ils vont pas trouver la bonne musique, parce qu'ils vont pas comprendre qu'on veut écouter de la musique, ils vont pas comprendre qu'on veut verrouiller la porte. Et aujourd'hui, les assistants vocaux, les gens constatent qu'ils fonctionnent dans une certaine partie, mais ils fonctionnent pas suffisamment fiablement pour être vraiment des choses sur lesquelles on peut se reposer à 100%. Déjà, est-ce que ce constat, Tu le partages, toi, et est-ce que si tu le partages, tu peux nous l'expliquer, nous donner ton explication?
Oui. Alors oui, je le partage. Effectivement, c'est loin, loin de ce qu'on pourrait appeler un assistant. Hein. Un assistant humain n'a rien à voir avec les assistants vocaux aujourd'hui. Donc ça, c'est clair, ça revient à l'idée qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, enfin que l'intelligence artificielle n'existe pas, elle n'est pas intelligente en tout cas. Mais bon, on peut y revenir plus tard. Mais donc pour parler des assistants vocaux, on a mis, et c'est notre faute à nous, hein, je veux dire, c'était la promesse de Siri, c'était de dire que on n'était pas loin d'avoir des assistants, et c'est pour ça qu'il y a des films comme Her, par exemple, hein, et le film Her, ça a été quelque chose qui était, en gros, qui se reposait sur l'idée de Siri. Mais on en a fait un objet anthropomorphique qui fait que on pensait qu'on allait pouvoir lui parler comme à un pote, et c'est un peu ce qu'on avait fait exprès, parce que en fait on a rajouté je raconte l'histoire souvent, c'est que on a rajouté dans Siri ce que moi j'appelle la stupidité artificielle, c'est-à-dire que on savait très bien que ça marchait pas bien. Et alors là, il faut se remettre dans les années 90. La reconnaissance de la parole des années 90 était encore moins bonne que la reconnaissance de la parole d'aujourd'hui. On était à du 80% de reconnaissance. Donc du coup, 80% de reconnaissance, il faut comprendre que vous avez une cinquantaine de mots par page de bouquin, par exemple, qui sont pas là. D'accord, donc ça va être compliqué de comprendre ce qui est marqué dans le bouquin si vous montrez 50 mots.
Donc je te coupe une seconde, mais finalement c'est le même parallèle qu'on peut faire avec la conduite pleinement autonome. C'est que dans une immense majorité des cas ça a bien fonctionné, mais il y a tous les petits cas du quotidien qui font que c'est pas viable à 100%. C'est très problématique.
C'est exactement le truc, c'est que nous non plus on n'est pas fiable à 100%. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ma reconnaissance de la parole, quand les gens ont un accent, quand les gens parlent vite ou quelque chose comme ça, je suis peut-être à 98%. Mais moi je vais pouvoir désambiguer relativement rapidement parce que je vais pouvoir établir un dialogue. Et justement le problème des assistants aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas capables d'établir ce dialogue, parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont pas compris, d'accord. Et c'est ça le truc compliqué, c'est ça qui fait que il y a deux parties dans la reconnaissance de la parole. Il y a la première partie, c'est la reconnaissance des mots eux-mêmes, donc c'est la reconnaissance du signal, si vous voulez. Donc on commence avec ça. Et puis après, il y a la reconnaissance du sens. D'accord, ce qu'on appelle le langage naturel. Et donc la reconnaissance du sens, c'est encore plus compliqué évidemment que la reconnaissance des mots. Quand le sens, quand on ne comprend pas, on ne sait pas forcément ce qu'on n'a pas compris. Nous, humains, on arrive à comprendre ce qu'on n'a pas compris, parce qu'on est dans un certain contexte, on est en train de parler d'une certaine chose. Enfin, il y a beaucoup plus de choses que juste les mots. Et ça, c'est cette IA, on va dire, conversationnelle. C'est cette IA qui n'existe définitivement pas aujourd'hui et qui est très très compliquée. Alors on va y tendre, c'est-à-dire que de plus en plus, on va voir des IA qui vont peut-être essayer de désambiguer, mais aujourd'hui, quand on regarde les Alexa et autres Google, qui sont les leaders vraiment de la reconnaissance de la parole aujourd'hui et des assistants, eux, la seule désambiguation, la seule conversation qu'on puisse avoir avec eux, c'est quand ils vont éventuellement poser une question dont la réponse va être oui ou non. D'accord. Donc, est-ce que c'est bien ça que t'as dit? Bah oui, d'accord. Mais voilà. Donc, du coup, on est encore très très loin de la conversation. Et tant qu'on est loin de la conversation, on sera loin d'un assistant qui va être efficace.
Tu disais tout à l'heure pour la voiture autonome que ça n'arriverait jamais. Est-ce que tu penses qu'un vrai assistant vocal tel qu'on l'idéalise aujourd'hui, ça n'arrivera jamais? Ou est-ce que on pourrait essayer d'évaluer quand est-ce que ça serait suffisamment viable pour pouvoir l'utiliser comme on serait en droit de l'attendre?
Alors je pense que dans des domaines particuliers, comme par exemple le domaine médical, dans un domaine particulier, on va arriver à un assistant qui est aussi performant qu'un humain. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'humain n'est pas fiable. Hein. C'est pour ça que le niveau 5 de la voiture autonome, c'est complètement idiot. Parce que ça veut dire que c'est 100% de conduite parfaite. D'accord. Donc nous, humains, on sait qu'on est peut-être à 80%, d'accord, à cause des choses dont on dit tout à l'heure, le fait qu'on textouille et qu'on boit, etc. D'accord. Donc une voiture, quand on va arriver à 90%, ben, ça sera déjà super, et ça sera donc la voiture niveau 4. Mais 100%, c'est idiot. Ben, l'assistant vocal, c'est un peu pareil, sauf que là, on va mettre la limite, on va la mettre à 98%. Et à 98%, dans un domaine particulier, je pense qu'effectivement, un assistant pourra être efficace et simuler, bah, on va dire un test de Turing à ce moment-là, sur un domaine particulier.
Je fais une petite parenthèse, Guillaume, tu sais que alors j'ai souvent, hein, je vous le confie à tous les deux, des petits retours qui me disent est-ce que tu peux en dire plus sur Guillaume Poggiaspa là? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, alors il reste très secret et puis j'entretiens le secret parce qu'en fait tout ça est un vaste complot pour rendre encore plus intéressant ta café. Mais du coup je pose une question un peu plus perso à Guillaume. Derrière toute l'analyse qu'on peut faire, et d'ailleurs tu rejoins très souvent dans tes chroniques là encore la position et ce qu'avance Luc dans sa description, est-ce que ça t'arrive du utiliser des assistants vocaux, Guillaume, toi?
Non, jamais, non.
Même pas sur ton smartphone? Est-ce que ça t'arrive de demander des trucs à Google? Jamais, jamais.
Jamais. Okay. Mais parce que, bah, tout simplement parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que je trouve que c'est assez rare, en tout cas, pour moi, c'est très rare dans mon cas d'usage, qu'il facilite les choses. C'est-à-dire que finalement, je prends mon téléphone et j'écris sur Google ce que je veux, c'est aussi simple que de dire « Ok, Google », avec une chance sur deux qui comprennent pas ce que je dis ou qui cherchent autre chose. Donc, pour moi, effectivement, c'est à peu près, pour l'instant, qu'il y a encore dans tous les assistants, ça les rend pas suffisamment utiles pour me motiver à les utiliser, quoi.
Et en plus, quand ils sont pas utiles, ils ne font même pas bien ce que vous aviez réfléchi au départ, Luc, à savoir tromper l'ennemi. Et aujourd'hui, je me rends compte que les phrases qui font la petite blagounette d'incompréhension de l'assistant connecté sont de moins en moins variées, de moins en moins pertinentes. Oui. Le nombre de fois où on entend « je n'ai pas compris », c'est vraiment édifiant. C'est-à-dire qu'ils ont même pas amélioré cet aspect-là, qui, d'un point de vue technologique, n'est pas très ambitieux, mais qui était très malin au départ. Tu le décris assez souvent, d'ailleurs, ça ressemble à la conversation des humains en boîte de nuit quand ils se comprennent pas, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la bêtise artificielle, de la stupidité artificielle. Ça, c'est effectivement l'idée de base, c'était de dire, mettons-nous dans une boîte de nuit, on est un peu bourré, il y a beaucoup de bruit, donc on comprend à peu près 50% de ce que dit la personne en face, mais on est quand même intéressé, donc on a l'air un peu con-con comme ça, elle nous parle, mais on comprend rien, mais on fait quand même, on la regarde dans les yeux, on rushe la tête, et on fait comme ça. Voilà. Donc c'était un peu ça, la stupidité artificielle de Siri. On a rajouté ce côté un peu débile, mais qui était en fait très humain. Et c'est aussi l'erreur qu'on a faite, parce que justement, on a mis un côté anthropomorphique à ce machin-là, on aurait dû dire dès le départ que c'était pas vrai, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans le panneau, quand même. Donc c'est ça qui est embêtant, et il fallait pas croire.
Anthropomorphisme, là aussi j'en profite, on parle d'Apple, et promis on va clore le sujet d'Apple, mais on a parlé beaucoup de l'anthropomorphisme et des interfaces qui se voulaient se rapprocher des interfaces réelles dans l'iPhone, dans les interfaces graphiques. Ouais. Je peux pas m'empêcher de te demander un petit témoignage de Scott Forstall, avec qui tu as travaillé et qui a été très volontaire sur cette démarche-là. Tu peux nous toucher un petit mot? Je sais que
c'est pas mon pote, hein. Je dois dire que c'était mon patron, hein, une fois que Jobs est parti, donc c'était mon patron direct. C'était un cauchemar, hein, ce gars. Hein, il voulait ressembler à Jobs, et donc il se prenait pour le vizir à la place du vizir, mais vraiment pour un vizir, quoi. Donc il était absolument infect avec les gens avec qui il travaillait. Pour moi, bon, il avait une capacité technique quand même, parce qu'il avait créé globalement une partie d'iOS, hein, donc c'est pas un débile, mais juste, je pense que ça lui est monté un peu à la tête, et du coup il avait des relations absolument exécrables. Et nous, en l'occurrence, bon, on voulait faire progresser Siri, hein, c'était notre seul objectif, et il y avait des réunions tous les deux fois par semaine, des réunions de produits, et il fallait aller présenter des nouvelles features, des machins comme ça, et à chaque fois, il pensait que c'était un menu chinois, hein, globalement, les trucs en présenté. Donc il disait, oui, je veux bien que tu mettes ça, mais pas ça, mais pas ça. Moi, ouais, je disais, écoute, Scott, c'est complètement con. Hein. C'est ce qu'on te présente, si on te demande 10 features ici, c'est parce qu'il faut mettre les 10 à la fois. Je veux dire, c'est pas un menu chinois. Bon, bref. Donc ça s'est relativement mal passé, nos conversations. Mais bon, le gars, il s'est fait virer grâce à Maps, hein, et un peu grâce à moi. Donc je suis assez fier de ça. Parce que Maps, ça a été quand même une catastrophe, hein. C'était sous ses ordres que ça a été fait. C'était mon voisin de bureau qui faisait Maps, et Maps a été, la direction du projet a été faite n'importe comment, quoi. Donc bon, je vais pas revenir sur les, je vais pas expliquer quoi, les trucs internes, mais c'était à mourir de rire, quoi, comment ça a été fait. Et donc c'était absolument pas une surprise que Maps explose comme ça. Et au moment où je suis parti, j'avais dit d'ailleurs à Tim Cook que ça allait se passer comme ça, et ça s'est passé comme ça.
Bon, c'est des expériences un peu plus tristes, effectivement, de ce passage. On parlait des assistants connectés, et rapidement, ça ressemble à quoi, la maison de Luc Julia? Est-ce que j'imagine que tu as domotisé des choses quand même?
Oui, alors, et, tu vois, c'est intéressant parce que bon, j'ai commencé il y a très longtemps, hein, parce que j'ai commencé à faire ma maison connectée en 1999, donc c'était il y a un petit moment. Il y avait un truc qui s'appelait X10, en français. X10, c'était un vieux protocole qui date d'il y a 30 ans, hein, donc c'est un truc très très vieux, donc j'avais commencé avec ça. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai 219 objets connectés dans ma maison, mais quand je pense à l'évolution que j'ai faite, j'ai eu une évolution... qui va certainement faire plaisir à Guillaume aussi, qui est qu'au début, j'étais tout le mettre dans le cloud, justement. Je disais, le cloud, c'est super, ça va permettre de créer un pseudo-langage, on va dire, générique, universel, un pseudo-standard, on va dire. Mais finalement, j'en suis un peu revenu, là, j'en suis beaucoup revenu. En fait, j'ai tout rapatrié downstairs, comme je dis, donc en bas. Et j'ai enlevé pratiquement tous mes objets du cloud, en fait, pour faire un cloud local. On va dire, bon, il y a des gens qui me demandent toujours ce que ça veut dire un cloud local. Mais en gros, c'est un cloud qui me permet, point de vue purement vie privée, etc., de garder toutes mes données. Et puis, les objets continuent à se parler entre eux, mais dans ce cloud local, et ils me rendent des services grâce à ce cloud local. Donc c'est quelque chose qui a évolué aussi, mais c'est vrai que depuis 99, donc un peu plus de 20 ans maintenant, j'ai créé cette maison connectée, et je dois dire qu'elle nous rend plein de services. Hein, mais ça n'a pas rendu un bon service à mes enfants, par contre, parce que quand ils vont chez des gens, ils se demandent pourquoi les lumières s'allument pas dans les toilettes automatiquement quand ils rentrent. Ils se demandent pourquoi les trucs sont pas tout magiques. C'est Disneyland chez moi, hein, faut être clair.
C'est quoi? C'est à base de Home Assistant, de JDOM, de toute autre chose fait maison?
Ouais, aujourd'hui je suis Home Assistant, donc je suis sur Home Assistant en général sur la plupart de la maison. Sinon, j'ai toutes les boîtes qui existent, hein, donc j'ai toutes, j'ai coupé le cordon avec le cloud.
On va sortir d'Apple et conclure un petit peu cette partie de présentation, Luc. Plus globalement, si on regarde la Silicon Valley au sens large, donc on sort vraiment d'Apple, hein, mais on prend beaucoup de hauteur. Bon, tu as passé maintenant des dizaines d'années. Tu vas continuer d'ailleurs, hein, à vivre, je crois, dans la Silicon Valley. Ça ressemble à quoi, nous qui sommes en France et qui n'avons que des témoignages au travers d'articles web, de vidéos? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ça ressemble? Est-ce que tu as des clins d'œil, des anecdotes à nous raconter, ou des visages que tu voudrais mettre en lumière?
Bon, ça ressemble à quoi? Déjà, il faut comprendre que la Silicon Valley, c'est un truc unique, on peut pas le décréter une Silicon Valley, d'accord, hein, et ça vient, pour moi, c'est historique, c'est culturel, ça vient de la ruée vers l'or, hein, ça vient de la conquête de l'Ouest, donc c'est un prolongement de ça, où t'as un patchwork de plein de gens différents qui viennent pour dans un but commun, en l'occurrence, en 1848, c'était pour trouver de l'or. Aujourd'hui, c'est pour trouver des technologies. Et donc, quand tu regardes la Silicon Valley, c'est des accents, des couleurs, des trucs. Enfin, c'est un merdier absolu, mais c'est absolument extraordinaire dans la partie d'émulation, de d'ébullition. Enfin, et cet esprit-là a pas changé malgré ce que je peux lire de temps en temps en disant que la Silicon Valley est morte. Bah non, la Silicon Valley est pas morte. Hein, c'est quelque chose qui depuis 35 ans, 50 ans, 60 ans est toujours en ébullition. On change évidemment en fonction des modes. Hein, donc au début c'était le silicone, aujourd'hui c'est le soft. Et donc la vallée c'est ça, c'est ce patchwork. C'est cet endroit où il y a beaucoup 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 d'étrangers qui viennent pour faire avancer la tech, et surtout à part Apple justement, c'est une histoire d'émulation même entre les grosses boîtes. Et on voit des groupes de travail, hein. Alors aujourd'hui c'est des meet-up, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, mais c'est des gens qui se réunissent dans des salles et qui sont de, bah ils viennent d'IBM, ils viennent de Microsoft, ils viennent de Cisco, ils viennent de n'importe quelle boîte, de toutes ces grosses boîtes machin, c'est des mecs qui ont écrit des papiers, c'est des idoles, c'est pour les jeunes. Moi quand je suis arrivé en 93-94, je veux dire, c'était, j'avais dans une salle là un truc qui s'appelait BKI, Computer Human Interaction. J'arrive, tout ce que j'avais écrit dans ma thèse, tous les noms que j'avais écrit dans ma thèse en citation, en référence, ils étaient là, ils étaient dans cette salle. Et les mecs, ils discutaient, ils faisaient avancer le public, on voyait une énergie. Je veux dire, c'était absolument fantastique. Donc, ils étaient tous là, encore une fois, sauf les mecs d'Apple. Et donc, c'était fantastique. Et c'est toujours ça. D'accord? Donc, il y a toujours cette espèce d'entraide, parce qu'on sait très bien, c'est un écosystème tellement petit, parce que finalement, c'est entre San Francisco et San José, hein, c'est ça, la Silicon Valley, c'est 100 kilomètres, hein, même pas. Et donc, c'est un écosystème où tout le monde se connaît, au bout d'un moment, évidemment, et on sait que, et tout le monde va changer, on va bouger d'un truc à l'autre, donc, de toute façon, je veux dire, quelque part, on va pas, évidemment, échanger des secrets commerciaux, industriels, des boîtes dans lesquelles on travaille, mais on veut faire avancer la technologie, et ça se voit dans ces discussions, et c'est ça que je trouve fabuleux, et que je trouve toujours fabuleux, presque 30 ans après.
Bon, la pandémie n'a pas... Vas-y, Guillaume.
Non, je veux dire, bah, on avait relayé ici, tu sais, les petits transferts de grosses boîtes vers le Texas, donc a priori, il n'y a pas de danger de voir en Austin le nouveau San Jose ou ce genre de truc.
Ben non, tu vois, ça c'est encore c'est les Musk et les Thiel, donc c'est les mecs, c'est les bouffons là qui nous font chier à faire de la à faire de la com. Et
il y a Oracle aussi en plus.
Oui, ben bon, c'est pareil, tu vois, le gars, bon, on commente même pas leurs options politiques à ces gens-là, mais bon, c'est anecdotique, c'est pour faire du buzz. Voilà, je pense pas que Austin va devenir la nouvelle Silicon Valley, parce qu'encore une fois, je pense pas que ça se transforme comme ça.
Y compris d'ailleurs, oui, en période de pandémie, ça a pas trop influencé le fonctionnement de la Silicon Valley au sens large.
Bah un tout petit peu, parce qu'il y a un problème quand même dans la Silicon Valley, c'est le prix des logements. Hein, c'est quand même du grand ouais. N'importe quoi. L'immobilier bon, c'est l'endroit le plus cher du monde hein, aujourd'hui. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc du coup, il y a des gens qui ont profité effectivement de la pandémie, du work from home là, donc de travailler à la maison pour aller s'exiler dans d'autres endroits pendant cette pandémie. Mais la vérité, c'est qu'on va retrouver un modèle hybride très bientôt. C'est-à-dire que les gens vont revenir, et même ceux qui avaient dit qu'ils allaient fermer leur bureau forever, bon, les Twitter et autres, certains Google aussi, certains morceaux de Google avaient dit ça, ils vont revoir leur bureau parce que on se rend bien compte que c'est pas complètement possible de faire tout en remote. De temps en temps, il faut quand même des interactions sociales et des interactions de création. C'est quand même plus sympa de le faire ensemble dans une pièce et de sentir l'énergie et la chaleur humaine.
Intéressant, donc un enseignement, mais pas forcément une révolution définitive. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces témoignages, Luc. On va maintenant s'attarder un petit peu plus sur l'intelligence artificielle. Tu le disais tout à l'heure, tu as écrit le livre, donc l'intelligence artificielle n'existe pas. Bon, donc comme je disais, c'est un comble pour un spécialiste. C'est clairement ton domaine d'expertise. On va réviser un petit peu nos fondamentaux, essayer d'y voir un petit peu plus clair. Quand on regarde l'actualité de l'intelligence artificielle, on peut être notamment estomaqué par les progrès qui sont faits. J'en veux pour preuve, par exemple, GPT-3, hein, dont Guillaume Poggiaspala nous a régulièrement parlé, qui offre des résultats qui peuvent être tout à la fois convaincants, pour certains effrayants. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier les progrès qui sont faits en matière générale, de manière générale en matière d'intelligence artificielle, selon toi?
Bon, les progrès sont fantastiques si tu prends juste les résultats. D'accord. Donc ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que effectivement, quand tu prends GPT-3, c'est intéressant, mais il faut regarder maintenant le montant de données qui sont nécessaires à atteindre ces résultats. D'accord. Donc GPT-3 par exemple, il faut aussi être clair. Moi, je me suis amusé avec. Hein, donc j'avais accès, early access à ce machin-là. Alors les résultats qu'on voit dans la presse et qu'on voit arriver parce que c'est impressionnant, blablabla. Les mecs, ils ont fait plusieurs essais quand même avant d'y arriver. Parce que moi, je peux te dire, j'ai essayé d'écrire des articles. Et d'ailleurs, j'ai écrit une petite tribune il y a quelques temps dans Challenge en France qui prenait un exemple où j'avais mis les mots juste. J'avais commencé avec Elon Musk et puis j'avais dit machine ou je sais pas quoi. Donc j'avais fait et je lui ai dit écris-moi un article, et le truc il m'avait écrit un article, mais c'était à mourir de rire. Donc et puis j'avais fait 2-3 fois, il y en avait sur les 2-3 fois, il y en avait un qui avait du sens, et puis les deux autres c'était n'importe quoi. D'accord. Donc il faut quand même aussi comprendre que tout est basé sur des statistiques. D'accord. Donc Guillaume l'a expliqué 1000 fois. Hein. Il y a beaucoup de données qui sont mises. Et en fait, ce qu'on essaye de trouver, on essaye de trouver des trucs qui ont été dits déjà quelque part un jour dans le monde et qui correspondent à peu près à ça. En gros, c'est ça les intelligences artificielles d'aujourd'hui. C'est quelque chose de statistique et qui va aller chercher dans des millions et des millions et des milliards de data quelque chose qui était similaire avant. OK. Et c'est ça le problème aussi, donc, et c'est là où moi je suis hyper critique de cette nouvelle tendance de l'intelligence artificielle, ce qu'on va appeler le deep learning pour faire court. Le problème du deep learning, c'est que ça demande tellement de données que ça demande une énergie absolument folle qui proportionnellement n'a strictement rien à voir d'une part avec notre cerveau, d'accord, avec notre intelligence. C'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle n'existe pas par rapport à l'intelligence. Les montants de données engagés et donc l'énergie qui est associée sont absolument ridicules. Et c'est pas scalable, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir mettre à l'échelle si on veut faire autant d'intelligence que l'intelligence des 7 milliards d'humains qui sont sur Terre. Ouais. C'est juste impossible, c'est juste l'échelle est pas du tout la même. Pour te donner un exemple simple que je donne assez souvent, c'est l'exemple de la machine DeepMind qui jouait au Go. D'accord. Oui. Donc la machine DeepMind qui jouait au Go, c'est 2000 ordinateurs en gros. Hein. Je vais résumer comme ça. Donc c'est un petit data center, c'est 440 kilowatts. D'accord. 440 kilowatts et le truc qui fait que jouer au Go. Hein, il faut être très très clair. Il a des millions de parties de Go et il fait que jouer au Go. Et le mec qui est en face, le champion du monde du Go, oui, il se fait ratatiner par la machine, d'accord. Mais lui, il fonctionne avec un cerveau et le cerveau c'est 20 watts. C'est 20 000 fois moins. D'accord, 20 000 fois moins, et le gars en plus, bon, même s'il est quand même un peu obsédé par le Go, il fait autre chose, il parle, il fait la cuisine, il fait d'autres trucs le gars, d'accord. Donc, je veux dire, on est en train de créer ces machines hyper spécialisées, ces outils hyper spécialisés, qu'on leur donne des vertus absolument extraordinaires, quand leurs vertus, en fait, il faut se calmer un peu, dans le sens où ils sont absolument pas vertueux, justement, du point de vue énergétique, et du point de vue du nombre de data demandées. Et ça amène aussi à un autre problème, qui est celui de la, justement, le ownership, alors je suis désolé pour les anglicismes, mais pour la propriété des données, ça va être que les grosses boîtes qui vont pouvoir avoir beaucoup de données, qui vont pouvoir avoir des machines comme ça. Donc c'est embêtant aussi ça. Ça veut dire que ça va être les Amazon et les Google qui vont et les Facebook qui vont ramasser tellement de données que eux ils vont pouvoir se payer des systèmes qui font ça entre le power nécessaire, donc la puissance nécessaire, la puissance de calcul, la puissance électrique nécessaire et le montant de données. Ça va diminuer l'accès en quelque sorte à l'intelligence artificielle.
Est-ce que c'est symptomatique, selon toi, c'est presque la question à laquelle on peut pas répondre non, hein, mais est-ce que c'est symptomatique, selon toi, le fait qu'on parle toujours d'intelligence artificielle de performance sans mettre souvent en regard la consommation énergétique? Est-ce que c'est pas révélateur du mur dans lequel l'humanité est en train de s'écraser en matière d'écologie? Parce qu'on parle tout le temps, et les boîtes se sont emparées ces derniers temps, de neutralité carbone, et c'est d'ailleurs, ça crée des travers, parce qu'on a l'impression qu'ils vont faire du bien à la planète, alors que, bon, la neutralité carbone, c'est beaucoup plus complexe que ça. On pourrait encore une fois citer Tesla qui fait énormément de revenus grâce à la revente de carbone, d'autorisation de génération de carbone aux autres constructeurs automobiles. Est-ce que c'est pas un peu symptomatique de notre comportement vis-à-vis de l'écologie, de jamais parler de consommation énergétique?
Bah si, mais le problème c'est la facilité. D'accord. Le problème, c'est que tout est trop facile maintenant. Trouver plein de data, ça devient facile. Enfin, faire de l'intelligence artificielle avec des data, c'est trop facile. Ces algorithmes sont trop faciles. Et donc, du coup, on voit les bénéfices sans avoir les inconvénients, parce qu'ils sont un peu loin, les inconvénients. Les data centers, ils sont pas là, ils sont pas à côté de toi. Là, tu vois les bénéfices directement sur ton écran quand tu vois pas que ça a impliqué, beaucoup d'énergie qui est utilisée dans le data center, parce que le data center, il est loin de toi, tu vois. C'est loin des yeux, loin du cœur. C'est le problème. Donc, on se rend pas compte, et pas grand monde le dit. En France, il y a des gens comme Jean Covici qui en parle, et il faut écouter ces gens-là, parce qu'effectivement, lui, il a l'expérience de 20-30 ans d'avoir vu les courbes énergétiques exploser à cause de la technologie. Ben, il faut les écouter. Donc, moi, je suis un technologiste, je suis un enthousiaste de la technologie, évidemment, mais je veux aussi pouvoir pointer de temps en temps les écarts de ces technologies-là.
Elon Musk, qui présente, tu l'as déjà cité à plusieurs reprises, donc je vais le faire une ultime fois, il présente l'intelligence artificielle comme un danger potentiel pour l'humanité. Il l'a dit, on l'avait relayé. Alors évidemment, quand il dit ça, on a tous en tête Terminator. J'imagine qu'il y a plein d'articles, je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a plein d'articles qui illustraient ce type de relais avec des extraits du film. La technologie, malgré tout, elle continue un peu à faire peur quand elle est abordée dans des conversations du quotidien, dans la machine à café, quand on n'est pas un sachant de la technologie, quand on suit pas les choses probablement comme tu le fais. Dans le monde professionnel, elle est souvent fantasmée, utilisée pour tout et n'importe quoi. Donc toi, t'as envie de tirer à boulet rouge sur ce type d'affirmation et ce type de ressenti finalement.
Bah oui, parce que la technologie, elle fait rien. Je veux dire, on disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle, elle est complètement con. D'accord, il faut être clair. La technologie, c'est nous. C'est nous qui décidons comment l'utiliser. C'est nous qui décidons quelles sont les régulations, les règles et tout ça. Donc à la fin, la technologie, ça veut rien dire. La technologie, c'est nous qui la créons, c'est nous qui l'utilisons. Donc si on pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est pas bien, il faut qu'on s'éduque. Le mot clé dans tout ça, c'est l'éducation. C'est de comprendre, d'essayer de comprendre au mieux, d'aller chercher les informations le plus possible pour pouvoir s'éduquer sur ces sujets et pour pouvoir en parler, pour pouvoir après collectivement faire prendre des décisions, demander à nos députés, c'est aussi là où la démocratie devrait pouvoir marcher, les députés aussi doivent pouvoir s'informer, et on doit pouvoir avoir des régulations après qui sont un reflet de ce que veut la société. Et puis ça amène des notions d'éthique, où il y a l'éthique personnelle, l'éthique d'entreprise, l'éthique de groupe, l'éthique d'un pays, même à la limite, qui fait que on va décider d'une régulation, on va décider de comment utiliser les choses. Je compare les technologies en général, donc c'est des outils, hein, pour moi, c'est très clair, je compare souvent ça à un marteau. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle, c'est un marteau, finalement, c'est une intelligence artificielle. D'accord? Ça fait quelque chose de très bien pour moi, ça me fait moins mal à la main quand je plante un clou, et ça fait le job. D'accord? Ça fait le job très très bien. Eh ben, un marteau, je tiens le manche. C'est moi qui décide de comment l'utiliser. Si un jour j'ai envie de taper sur la tête de Guillaume, je peux le faire.
Lequel?
N'importe lequel. Mais je peux le faire, mais c'est pas bien. Et on va être tous d'accord que c'est pas bien, et puis il va avoir mal, etc. D'accord? Et donc, la société, un jour, a décidé que taper sur la tête du voisin, c'est pas bien. Ça va pas empêcher de le faire. D'accord? Mais je vais devoir en répondre si je le fais. Donc, ces technologies, on en tient le manche. C'est exactement comme le marteau. On décide de quoi en faire. De temps en temps, il y a des gens qui vont mal l'utiliser. S'ils l'utilisent mal dans la notion de société qu'on est en train de définir, il faut qu'ils en payent les conséquences.
Ouais, c'est pas pour autant que les robots vont se soulever demain et nous tirer dessus avec.
C'est un autre truc qui m'horripile. Un jour, je parlais avec Musk justement de ça. Je dis, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Tu imagines un robot qui est en train d'assembler les bagnoles dans les usines de Fremont de Tesla. Ben un jour, le robot, là, au lieu de visser un truc, là, il décide, pouf, il se retourne et il décide de planter son tournevis dans l'œil du mec qui est en train de le surveiller. Non.
Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'Elon Musk a en tête, et est-ce que c'est vraiment ou est-ce qu'il joue de ça, ou est-ce qu'il entretient le doute, ou est-ce qu'il utilise ça comme une image pour témoigner d'autre chose, auquel cas la pédagogie est pas géniale. Mais
la pédagogie est pas géniale, mais oui, il joue de ça parce que ça lui permet de faire du buzz, parce que c'est dans l'inconscient, c'est ce dont on a toujours des petites peurs, et puis les médias jouent là-dessus parce que c'est beaucoup plus sexy de dire que les robots vont nous tuer que de dire que les robots, c'est des maths. Je veux dire. Donc lui, il joue de ça pour faire son buzz, c'est clair. Et puis pour faire aussi la promo de ses boîtes à lui. Il est là pour faire. C'est un génie du marketing, ce qu'il faut être très clair. Hein, c'est tout.
En préparant cette émission, tu indiquais que finalement le principal risque à voir l'intelligence artificielle sous ces travers-là, ce serait de passer à côté des grandes avancées avec des disciplines telles que le machine learning, le deep learning. Alors qu'on en est qu'à leur début et elles peuvent apporter beaucoup à l'humanité. Alors peut-être que c'est là-dessus aussi qu'on peut commencer à conclure cet échange sur l'intelligence artificielle sur une note positive. C'est quoi l'avenir idéal de l'intelligence artificielle et en quoi nous, pas en tant qu'individus, mais en tant que société, on pourrait contribuer à faciliter cette avancée plutôt que, encore une fois, caricaturer les aspects négatifs de l'intelligence artificielle?
Il faut utiliser ces outils. Déjà, il faut les comprendre. Il faut comprendre comment ils marchent. Il faut comprendre leurs limites. Il faut comprendre aussi quels sont, quand ils marchent, quels sont les impacts sur, on a parlé déjà, les impacts écologiques. Donc, il faut qu'on comprenne un peu tout ça. Il faut qu'on en fasse un tout. Il faut pas qu'on voit juste les résultats. D'accord? Mais après, une fois qu'on comprend donc ça, il faut faire des choix. C'est une balance. Tout est une balance à la fin. Hein. C'est-à-dire que, il va falloir, si tu me dis je vais créer un système d'intelligence artificielle qui va prendre pas mal d'énergie et tout ça, mais ça va résoudre le cancer du sein,
ouais.
Tu vois, je vais dire bah ouais, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Et tu me dis je vais utiliser le même montant d'énergie pour jouer au dernier jeu débile à la mode. Bon bah là, tu vois, j'ai plus de mal. Donc, mais tout ça, c'est une négociation. C'est un choix de société. C'est un choix éthique encore qui peut être personnel, qui peut être plus important dans un groupe. Mais c'est ça. Donc, du coup, comprendre comment ça marche, comprendre vers où on peut aller, et après comprendre aussi que ça peut faire des choses absolument extraordinaires. On parlait de la voiture niveau 4 tout à l'heure. La voiture niveau 4, pour moi, c'est extraordinaire, parce que aujourd'hui, je sais pas exactement en France combien on a de morts sur les routes, mais j'imagine que c'est dans les 2000, 3000, un truc comme ça. Ben, si t'as 90% de vie que tu peux sauver grâce à l'intelligence artificielle et grâce au niveau 4, je veux dire, c'est un no-brainer pour moi. Je veux dire, une vie sauvée, ça n'a pas de prix, évidemment. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Alors, les domaines que moi j'adore et qui sont pour moi évidents, c'est, la médecine et le transport. Parce que les populations vieillissent et donc ils ont besoin aussi de se transporter d'une manière plus autonome, etc. Donc ça donne des possibilités à des gens qui n'ont pas la possibilité de se transporter, les aveugles, etc. Bon, on peut imaginer plein de choses. Donc il y a des choses extraordinaires à faire avec la technologie, d'accord. Il faut peser le pour et le contre. Le pour moi, c'est si ça sauve des vies, si ça améliore la vie des gens. Donc, les trois domaines qui sont mes domaines que j'adore, c'est donc la médecine, le transport, et puis, je dois dire, la maison connectée, la vie à la maison, parce que c'est vrai qu'avec ces 20 et quelques années d'expérience d'avoir une maison connectée, c'est quand même super agréable d'avoir rien à faire dans la baraque et qu'elle fasse tout seul, quoi. Je veux dire, ça, je me suis un peu trop habitué.
Oui, puis tu mets souvent en avant aussi le fait qu'en se débarrassant de ces tâches qui sont pas épanouissantes et intellectuellement sociabilisantes, on peut libérer du temps pour passer plus de temps en tant qu'humain à échanger les uns avec les autres, voilà. Et justement capitaliser sur la vraie intelligence.
Alors là, c'est un choix, et c'est encore, on va pouvoir me dire, si on regarde le côté pessimiste, oui, je peux aussi prendre mon temps à faire des trucs débiles et à regarder des émissions de télé débiles. Donc je peux aussi faire ça, mais pour ça, si tu veux, c'est un choix, et c'est... Moi, je crois en l'humain, je crois en l'éducation, je crois qu'on a envie de savoir plus, de gratter les choses tout le temps. Et ce temps libéré, effectivement, il peut être extraordinairement mis à notre bénéfice pour pouvoir continuer à progresser. Parce que notre cerveau, il a pas rabougrir. Alors, par contre, là, je donne aussi souvent l'exemple d'un film qui s'appelle Idiocratie. Je sais pas si vous avez vu ce film. La bonne nouvelle, c'est que c'est un film idiot, mais qui dure qu'une heure cinq. D'accord, donc ça dure pas trop longtemps, ça va. Mais Idiocratie, c'est intéressant quand tu regardes au 18e degré peut-être, parce que tu te rends compte que tu peux avoir une société effectivement qui va être complètement mise à sac en gros par la technologie. Mais quand tu regardes bien, évidemment, c'est pas mis à sac par la technologie, c'est mis à sac par un groupe qui a décidé de mettre un autre groupe sous son joug grâce à la technologie. D'accord, donc il y a toujours un humain quelque part qui décide, d'accord. Donc c'est une dictature. Mais les humains leur sont devenus complètement idiots, d'accord. Ils arrosent leurs plantes avec du Gatorade, ils regardent des émissions débiles toute la journée, ils sont affalés à bouffer des chips sur le canapé. Donc oui, tu peux avoir une société d'idiots. Tu peux créer, grâce ou à cause de la technologie, une société d'idiots. Mais c'est un choix. C'est un choix qu'on fait nous en tant que société.
C'est l'être humain décrit dans Wall-E par certains aspects. Il est pas si caricatural que ça, d'ailleurs, dans ce film. Derniers éléments de cet échange, Luc, je te donne deux jokers et je te laisse prendre l'un, l'autre ou les deux des thématiques qui nous sont chères dans Tech Café de l'actualité de ces dernières semaines. Les crypto-monnaies et de l'autre côté, la conquête spatiale avec, encore une fois, ces projets de s'orienter vers la Lune, vers Mars. Alors, on est plus ou moins selon les sujets rattachés à l'intelligence artificielle et sur les domaines d'expertise que tu as, mais je suis persuadé que t'as des regards sur ces deux thématiques.
Bah, la crypto-monnaie, alors, je suis à 250% aligné avec ce que nous a raconté plein de fois Guillaume. Hein. Il a décrit et redécrit, je veux dire, c'est une aberration. Merci. C'est une aberration. C'est juste une aberration écologique, mais c'est une aberration économique aussi. Enfin bon, c'est juste une aberration. C'est une mode en ce moment. D'accord? Ça n'a aucun, enfin, on parlait de mise à l'échelle tout à l'heure. La mise à l'échelle de la crypto-monnaie, n'est juste pas possible. D'accord?
Donc. On parlera pas des NFT, alors non plus.
Ah bah, les NFT, encore là, c'est encore autre chose. Enfin, bon, là, je voudrais que vous reportiez aux nombreuses émissions dans lesquelles Guillaume a fait ses exposés qui sont excellents et qui sont très très clairs. Pour ce qui est de la conquête spatiale, moi, je comprends pas. C'est pas un truc que, tu vois, je suis peut-être un peu trop vieux, je sais pas, mais si c'est juste pour dire, on est en train de pourrir notre planète, il faut aller en chercher une autre pour aller s'y exiler. C'est un peu le discours de Musk, si tu veux. Ça m'inquiète un tout petit peu, quoi. Si c'est ça le but, si c'est pour aller explorer le monde, aller trouver les petits hommes verts, bon, ben là, c'est peut-être plus rigolo, mais bon, je vais prendre mon joker là-dessus.
Bon. Merci beaucoup Luc, vraiment merci beaucoup du temps que tu nous consacres et puis de la générosité que tu as en nous partageant tous tes témoignages. C'est très très précieux évidemment pour nous et j'imagine pour les personnes qui écoutent Tech Café. Guillaume, est-ce que tu as un mot de la fin, une ultime question, quelque chose qui te brûlerait les lèvres ou...
Non, mais je voudrais remercier énormément évidemment Luc d'être venu et de dire plein de gentillesse sur nous. Ça fait toujours énormément plaisir, forcément. Et oui, il faut avoir confiance en l'humain. Hein. Je veux dire, on peut prendre un exemple qui a l'air d'avoir absolument rien à voir, mais si on laisse du temps aux gens, ils s'affalent pas forcément dans la télé, ils se droguent pas, ils deviennent pas alcooliques. Il y a des essais qui ont été faits de revenus de base, par exemple, dans certains États américains ou dans certaines parties du monde. Et à aucun endroit, on a constaté, quand on donnait un revenu de base aux gens et qu'on leur donnait plus de temps, à aucun endroit on a constaté qu'ils devenaient camés ou alcooliques, en fait. Hein. Ouais. Ils utilisent leur temps pour faire d'autres choses, donc se consacrer à leur famille, se consacrer à leur communauté, ou faire des boulots qui les intéressent. Voilà, il y a plein de trucs comme ça.
Effectivement, il faut de créativité.
Oui, voilà, il faut faire confiance aux gens et oui, la technologie ça peut être quelque chose de formidable et il faut que la société s'en empare, quoi. Il faut pas juste que les entreprises privées fassent ce qu'elles veulent, il faut aussi que la société civile s'en empare, oui, c'est sûr.
On aurait matière à développer sur les thèmes de l'éducation.
Oui. Quand on est d'accord, de toute façon, enfin, moi, je suis d'accord, évidemment, forcément. Donc, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, si ce n'est merci beaucoup.
Luc, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel?
Un peu comme Guillaume. Voilà,
c'est copieur.
Au même endroit, c'est-à-dire que je suis pas sur Facebook, donc ne cherchez pas.
On peut te retrouver dans ton livre quand même, l'intelligence artificielle n'existe pas, qui va vous redétailler les éléments qu'on a abordés dans les grandes lignes dans cet épisode. Merci beaucoup. Bon, Guillaume, je te demande pas où on peut te retrouver. Par contre, on peut nous retrouver tous les deux chaque semaine dans Tech Café pour l'actu tech et ses enjeux de société. Merci beaucoup Luc, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Merci beaucoup.